Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Marie et Valérie. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui nous allons découvrir les grandes salles d'opéra et le choix a été très difficile hein Marie.
On oui, a eu du très mal, difficile. Hein.
Ouais. Nous avons retenu trois lieux mythiques sur le continent américain, en Australie et en Europe. Mais pour commencer, écoutons sur Couleur FM 97.1, dans votre émission Au fil des notes, la valse tirée de l'opéra Faust de Charles Gounod.
C'est par cet opéra français, le Faust de Gounod, dont nous venons d'entendre la valse, que fut inauguré le 22 octobre 1883 le MET, Metropolitan Opera de New York, alors situé en plein cœur de Broadway.
Alors, c'est sous la direction de Heinrich Conried, entre 1903 et 1908, que les New Yorkais purent découvrir un nouveau talent en la personne d'Enrico Caruso, que tout le monde
oui.
connaît.
Et de 1908 à 1935, l'opéra de New York fut administré par Giulio Gatti Casassa, et les œuvres furent dirigées par de grands noms de la musique classique comme Gustav Mahler, Arturo Toscanini et Arthur Bodansky.
Alors, entre 1935 et 1950, c'est le Canadien Edward Johnson qui administra l'opéra et qui dut affronter les moments les plus sombres après le crash de la bourse de New York en 1929 et la Seconde Guerre mondiale.
Alors Valérie, nous allons entendre des craquements de disques vinyles.
Laurent, j'écoute.
C'est normal. Mais juste pour vous faire découvrir par cet enregistrement de 2 minutes ce ténor qui a enflammé New York et l'Amérique durant plusieurs années, Valérie.
C'est merveilleux, mais en plus le vinyle, ça revient à la mode, donc
absolument.
craquons
absolument.
Pour le vinyle.
Absolument, mais là, c'est
à
fort.
À fond. Alors on vous propose d'écouter Enrico Caruso dans la Donna e Mobile, tiré du Rigoletto de Giuseppe Verdi. Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes. Alors, Sir Rudolf Bing succéda de 1950 à 1972 et c'est sous son administration que le Metropolitan Opera déménagea au Lincoln Center en 1966 dans un bâtiment réalisé par Wallace Harrison et dont le hall d'entrée est décoré par 2 fresques réalisées par Marc Chagall. C'est pas rien quand même,
non,
Marc Chagall.
Non.
Le 16 septembre 1966, le nouvel édifice est inauguré par une représentation d'Antoine et Cléopâtre de Samuel Barber dans une salle qui peut accueillir, écoutez bien, 3800 spectateurs.
Bon sang.
C'est énorme.
Et Sir Rudolf Bing a fait venir des artistes de renommée mondiale au Metropolitan Opera House de New York, comme Maria Callas, John Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Montserrat Caballé, Franco Corelli, Nicolai Gedai, John Vickers, Cesar et Siepi. Et les opéras furent dirigés par de très grands chefs tels que Dimitri Mitropoulos, Pierre Monteux, Fritz Reiner, Karl Baum et le très grand Herbert von Karajan. Aujourd'hui, le Metropolitan Opera est administré par Peter Gelb, assisté de James Levine en tant que directeur musical. Le chef d'orchestre invité principal est Valéry Gergiev.
Alors, parlons un peu, Marie, de la partie technique de cette salle. Le proscenium, le lieu où les acteurs jouent, est large de 16 mètres et d'une hauteur identique. C'est énorme.
Énorme. Hein ?
Le Met a la particularité de posséder le plus grand rideau du monde. Hein ? Pour cause, 16 mètres, ça fait pas mal quand même. Hein ? Relativement récent, cet opéra possède 7 ascenseurs. 3 scènes coulissantes et un plateau tournant d'un diamètre de 20 mètres sur la scène principale. Je sens que
ah,
Marie
ça me fait
est
rêver.
En train de rêver.
Ah, oui, complètement. Je rêverais d'avoir ça au lieu d'aller me coincer les doigts pour changer de décor. Complètement.
C'est mes yeux, c'est
mais
ça.
Bon, voilà, je ne suis qu'à mes yeux.
Ah, bah alors, nous demandons au maire de mes yeux de bien
ah,
vouloir
oui,
en faire autant.
Et pourtant, Dieu sait s'ils m'en ont fait des choses là-bas déjà pour m'avantager. Mais bon. Le Met diffuse des émissions radiophoniques depuis 1931 sur les ondes américaines. Et depuis décembre 2006, des diffusions de spectacles sont faites dans des salles de cinéma, des théâtres et sur Internet. Pour la saison 2014-2015, 10 représentations du Metropolitan Opera ont été diffusées en haute définition. Le Met espère diffuser ses opéras sur tout le continent et atteindre une audience d'un million de spectateurs avec ses retransmissions en haute définition.
On est dans le grandissime hein, à chaque fois. Hein. Le directeur du Met, Peter Gelb, explique qu'une retransmission mondiale est un bon moyen pour la survie du métier et au renouvellement du public. Une des chanteuses fréquemment invitées au Met, en l'occurrence notre chanteuse française Nathalie Dessay, précise que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller à l'opéra, surtout quand on habite une petite ville. Alors le Met, à New York, ce n'est même pas envisageable.
Valérie, j'aimerais dire une petite anecdote.
Allez,
que
va,
j'avais
Marie.
Trouvée
on
vraiment
va, Marie,
magique. Le soir d'une dernière représentation de la Tosca de Puccini, les techniciens du Met ont réservé une surprise à une diva qui leur avait vraiment empoisonné la vie durant
encore
toute
une.
La durée de son passage.
Encore une.
Et lors de la scène finale, Tosca, pensant que son Mario était mort, se jette dans le vide. Bien entendu, vous pensez, tout est prévu pour que la chanteuse ne se blesse pas.
Heureusement.
Donc, installation de matelas, personnel prêt à réceptionner la diva pour l'aider à descendre. Scène malgré tout risquée, mais maintes fois répétée. Et ce soir-là, les spectateurs ont eu la grande surprise de voir la diva rebondir plusieurs fois au bord de la murette d'où elle venait de se jeter. Et pour cause, petite vengeance des techniciens, ceux-ci avaient placé un trampoline sous le matelas.
Allez,
et le plus grand rideau du monde s'est fermé sur une diva rebondissant et un public hilar.
Oui.
Alors, on a beau être une diva, attention au respect du travail des techniciens.
Voilà, c'est ce qu'on dit souvent dans nos émissions. Hein.
Mais oui.
Ce sont peut-être des grands hommes et des grandes dames,
mais
un
voilà.
peu d'humilité par moment, ça
oui.
fait pas de mal.
Tout
bah
à
voilà,
fait.
Voilà, tel est prix qu'ils croyaient prendre,
et
tant pis
oui.
pour elles. Alors, nous allons écouter sur Couleur FM 97.1, dans notre émission Au fil des notes, Visti d'arte, extrait de la Tosca par la très grande Joanne Sutherland. allons parler maintenant de l'Opéra de Sydney. C'est certainement l'un des chantiers les plus complexes et les plus maudits du XXe siècle, Marie.
Oui.
Le Danois Jørn Utzon remporte le concours, mais fatigué des contretemps et des querelles interminables, il finit par se retirer en 1966. Ça nous rappelle certains chantiers actuels. C'est assez drôle, non ? Au départ, les travaux devaient durer 3 ans et coûter 7 millions de dollars. C'est marrant, ça résonne, moi, dans mon esprit en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a des choses dans l'actualité qui sont un peu dans la même verve. Alors, au fil des mois, rien ne se passa comme prévu. Résultat, 15 ans de chantier et plus de 100 millions de dollars déboursés par la ville de Sydney. Alors, la facture particulièrement élevée de l'opéra fut complètement payée avant 1975 grâce à un système, eh bien, devinez quoi, un système de loterie publique, oui.
Et tout ça pour un joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007.
Ça vaut le coup quand même, hein ?
Oui, malgré ses vicissitudes, qui a vu défiler sur sa scène les plus grands artistes lyriques et bien d'autres. La grande question, c'est finalement, qu'est-ce que ça représente ? On entend un voilier par-ci, un coquillage par-là. L'architecte se serait inspiré de pelures d'orange ou de différentes parties d'une sphère qu'il aurait coupées et assemblées de manière originale.
Et finalement, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Non ?
Voilà. Et en résumé, on peut toujours imaginer ce qu'on veut. Mais le Sydney Opéra possède 5 salles de spectacle, dont la dernière créée en 1999. Une grande salle de concert avec 2679 sièges, l'opéra qui offre 1547 sièges, une salle de théâtre pour 544 sièges et une plus petite salle de théâtre de 398 sièges et un studio de théâtre avec 364 sièges.
Ils peuvent être jalousés hein, quand même.
Ah oui, oui. Franchement.
Oui. Une grande salle magnifique. Donc l'inauguration a eu lieu en 1973 en présence de la reine Elisabeth II, s'il vous plaît, avec la 9e symphonie de Beethoven. Eh bien, sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, justement, nous allons écouter l'extrait de la 9e symphonie de Beethoven par le Leipzig Gewandhaus Orchestra, dirigé par Kurt Masur. Depuis, l'Opéra de Sydney a accueilli les plus grands artistes du monde, comme bien évidemment Luciano Pavarotti. L'Opéra accueille 2000 spectacles par an. C'est énorme, 2000. Hein. Ça peut faire jalouser un paquet de personnes quand même. Hein. Et c'est dans la grande salle de concert que se trouve le grand orgue mécanique du monde, le plus grand orgue mécanique du monde, qui compte, écoutez bien, plus de 10 000 tuyaux.
Alors, musique classique et pop à l'intérieur comme à l'extérieur, à chaque nouvel an, le site est envahi par 1 million de personnes pour l'un des plus célèbres feux d'artifice du monde. Il comporte aussi des restaurants et des promenades piétonnes.
Et en 2014, un incident a perturbé la vie de l'Opéra de Sydney, malheureusement. Dans ses déclarations publiées sur le réseau social Tamar Iveri, soprano géorgienne, s'était élevée contre la tenue d'un défilé gay le jour où un service orthodoxe honorait les soldats géorgiens morts en Afghanistan. Les propos de la soprano, qui devait tenir le rôle de Desdemone dans l'Othello de Verdi, ont été jugés inadmissibles et s'est terminé par le limogeage de la cantatrice, carrément. Et puis une pétition en ligne réclamant que le visa de travail en Australie de Tamar Iveri lui soit retiré a récolté, écoutez bien, plus de 4000 signatures. Alors attention, on ne plaisante pas avec la réputation d'un opéra.
J'ai bien l'impression, oui. Alors, petite info, si vous êtes en Australie en juillet ou en août, vous pourrez aller écouter Turandot de Puccini. En voici un avant-goût avec Placido Domingo.
On écoute Nessun Dorma. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Valérie et Marie. Nous allons parler maintenant de la salle de la Fenice. L'opéra de Venise, la Fenice, est un opéra construit au XVIIIe siècle dans le style néoclassique avec une salle proposant 5 étages superposés de loges finement décorées en rouge et or.
Et il est avec la Scala de Milan et le Teatro San Carlo de Naples l'un des temples les plus prestigieux de l'opéra italien. La Fenice a vu la création des plus beaux opéras de Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti. La Fenice est inaugurée en 1792 après l'incendie de l'ancien théâtre. En 1832, il est détruit par les flammes et reconstruit à l'identique en 1836 par les architectes Giambattista et Tommaso Meduna et décoré par Tranquillo Orsi.
Alors, dès 1844, Giuseppe Verdi y crée Hernani, suivi de Attila, Rigoletto, La Traviata et Simon Boccanegra. Ça en fait pas mal quand même. Hein?
Oui.
Nous allons donc écouter un extrait d'un compositeur né à Venise. Nous parlons bien entendu d'Antonio Vivaldi. Le printemps, extrait des 4 saisons par Nigel Kennedy. Un petit bijou sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes.
Beau, hein, ce printemps
magnifique,
de Vivaldi.
Magnifique.
Après-guerre, la Fenice occupe une place prépondérante dans l'opéra italien et accueille les œuvres modernes de Stravinsky, Britten, Prokofiev et tant d'autres.
Alors en janvier 1996, alors que le théâtre est l'une des références mondiales de l'art lyrique, il est à nouveau détruit par un incendie criminel. C'est quand même pas de chance. Hein. Et là, 10 personnes comparaîtront devant le tribunal de Venise, dont les 2 électriciens soupçonné d'avoir mis le feu au théâtre pour éviter de payer des pénalités pour retard de travaux. C'est quand même hallucinant, quoi.
Oui, hallucinant, parce que quand on sait où est située la Fénice, dans Venise,
oui.
Ça aurait pu être dramatique.
Tout à
quoi.
Fait, ouais.
Et la ville de Venise, aidée par l'État italien, par l'UNESCO et par d'importantes donations du monde entier, font pour la troisième fois renaître le théâtre de ses cendres à l'identique, com'era et dov'era. Comme il était et où il était, de son luxe d'origine après 8 ans de travaux et 60 millions d'euros.
C'est hallucinant, c'est con. Cool,
jamais un lieu n'aura autant mérité son nom, car Fénice, bien sûr, veut dire phénix.
Il renaît de ses cendres, hein.
Voilà. La salle Rouve, reconstituée notamment d'après des scènes du film Senso de Visconti.
Et le 14 décembre 2003, c'est la soirée inaugurale sous la direction du chef d'orchestre Riccardo Muti, avec au programme Beethoven, Stravinsky, Caldara, Wagner. Alors voici un extrait de ce que les spectateurs ont entendu ce fameux soir sous la direction du grand chef. La consécration of the house, ouverture opus 124 de Beethoven. On écoute sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes.
Rien que la visite de ce lieu est un moment magique. Dès que l'on accède à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une autre époque. On s'attend à trouver des robes à crinoline, on entend les chuchotements, les bruissements. Tout est là, il ne manque vraiment que Sissi.
Oui,
avoir rendu à l'exacte réplique d'avant l'incendie est incroyable, avec plus de 1000 places, Valérie.
C'est énorme, et grâce à la réouverture de ce que l'on appelle la porte d'eau, entrée postérieure existant depuis toujours, mais tombée en désuétude dans ces dernières décennies, cet endroit permet maintenant de faire entrer le public sans devoir passer par la porte principale. Alors, il suffit juste de traverser un petit pont et de parcourir les petites fondamentas, des petits quais, hein, qui ont été rebaptisés récemment du nom de Maria Callas.
Et si vous allez à Venise fin août, vous pourrez écouter à la Fenice la Traviata de Verdi.
Génial. Et nous allons donc terminer cette émission en écoutant un extrait de cette Traviata par Maria Callas, Sempre Libera. Sempre libera nei rivoli.
cette merveilleuse Maria Callas.
N'est-ce pas ?
Magnifique. Puis alors, cet extrait est vraiment très, très beau.
Touchant.
Alors, pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur l'opéra, essayez de découvrir sur le livre d'Alain Duhaut, Dictionnaire amoureux de l'opéra. C'est vraiment très beau. Il y a plein de petites infos.
Allez chez nos petits libraires,
voilà.
Je suis sûre que
oui.
Ils vont vous le trouver ce livre. Alors Marie, pour cette dernière émission avec vous, puisque c'est la dernière, on va s'en expliquer tout à l'heure, deux petites citations du jour pour le prix d'une. Hein.
Voilà.
Hein, parce que je vais m'ennuyer, on va s'ennuyer sans les citations.
Alors une de Giuseppe Verdi, bien sûr. Mm-hmm. L'opéra est l'opéra, la symphonie est la symphonie, et je ne crois pas qu'il soit beau d'introduire un passage symphonique pour le seul plaisir de faire danser l'orchestre. Ça, c'était Monsieur Verdi. Et puis, j'en ai une parce que je trouve qu'en ce moment, il se passe tellement de choses difficiles dans le monde. Je pense que vous comprendrez tout de suite pourquoi. La liberté est une note dans une symphonie. Et c'est Sahar Khalifa qui l'a donnée, cette citation, je la trouve absolument très belle.
On dit à propos, n'est-ce
voilà.
pas ?
Voilà, oui.
Alors, merci Marie pour ces deux citations déjà. Voilà, nous avons passé 2 ans ensemble à parler de musique classique, à notre façon, hein, bien sûr. Et puis, nous espérons vous avoir apporté quelque chose dans cette démarche. Notre intention était de vulgariser et d'offrir à ceux qui n'avaient pas la possibilité de se renseigner sur le classique ou d'entendre quelque chose sur le classique, de pouvoir, de façon simple, être informés. Nous avons eu un grand plaisir à faire ces émissions.
Absolument.
En tout cas, voilà, c'était vraiment une joie, Marie, de le faire avec vous. Malheureusement, nous ne pouvons plus continuer ces émissions pour des raisons professionnelles et puis d'emploi du temps. On est pris, on a beaucoup de choses à faire et que, comme vous le savez, on est bénévole, donc c'est pas toujours facile de joindre l'utile à l'agréable. Et l'émission Au fil des notes prendra fin en août. Nous avons donc encore 2 enregistrements à faire, mais vous, Marie, malheureusement, vous ne pourrez pas nous accompagner pour ces 2 dernières émissions parce que vous devez et préparer
oui.
votre spectacle
voilà.
dans votre école de danse, à mes yeux. Et cela vous prend énormément de temps.
Et, oui.
hein, et parlez-nous un voilà. petit peu de cette...
De 30 ans de passion pour la danse classique et 30 ans que je suis dans cette école. Et ce spectacle est un petit peu plus particulier puisque nous allons retrouver Lou... Voilà, donc c'est
la
quelque chose
dont
voilà,
on a parlé,
qui a eu sa leucémie, voilà,
qui est guéri, enfin
qui est en phase de guérison,
voilà,
qui reprendra l'école à la rentrée, qui là commence tout doucement, qui a eu l'autorisation de reprendre la danse.
Ça, c'est
tout
génial.
Ceci grâce au don de moelleuseuse d'une donneuse allemande anonyme.
On ne répétera jamais assez.
Voilà, soyez donneur, s'il vous plaît.
on en profite pour faire nos derniers
oui.
petits messages.
C'est très
propos.
Important.
Donc, Régis Boinet sera en ma compagnie avec Michael Paoli pour l'avant-dernière émission et nous ferons la dernière émission Régis et moi-même. Et puis, je voulais remercier toute l'équipe de Couleur FM pour sa gentillesse et sa disponibilité. Merci à notre technicien Laurent que nous avons bien taquiné durant ces 2 ans et qui n'a pas été avare de répartie et d'humour,
c'est
n'est-ce
sûr.
Pas hein on en a appris de pas mal. On les a mis sur nos petits carnets et puis on les ressortira à l'occasion. Merci Laurent. Merci à notre présidente, Titane, qui est une femme formidable, qui est extraordinaire, gentille, douce, compréhensible et qui va toujours de l'avant et qui a fait vraiment son maximum pour faire évoluer la radio. Et merci à la directrice d'antenne, Véronique Boulieu, pour son soutien dans notre démarche et son professionnalisme aussi et ses conseils avertis qu'elle nous a régulièrement donnés. Alors, merci à nos invités qui aussi ont enrichi nos émissions de leur présence. C'était vraiment, je trouve, ces moments de convivialité avec nos invités rendaient les émissions, à mon avis, encore plus sympathiques. Elles ont enrichi de leur présence, mais elles ont donné une vie à ces émissions. Et puis, Régis Boinet et Michael Paoli qui nous ont apporté leur vision masculine des choses.
Hein, yes.
On a bien rigolé avec eux. Leur humour aussi, leur joie et leur bonne humeur. Merci à vous deux, messieurs, pour ces charmants moments que nous avons passés avec vous. Ils étaient parfois tétanisés devant le micro, comme vous, Marie.
Hein, oui, la première fois.
Voilà.
Oh là, oui.
Mais bon, je trouve que tout le monde s'en est très, très bien sorti. Et puis, je tenais à faire ce point en présence de Marie, que j'ai vraiment apprécié et qui, au fil du temps, finalement, finalement est devenue une amie, une complice de ces émissions. Alors merci Marie pour ta gentillesse, ta disponibilité et puis toutes les connaissances que tu m'as apportées. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris à ton contact. Merci beaucoup.
Merci.
Je fais un dernier clin d'œil à notre petite. Alors
Lou.
Qui c'est la petite? C'est la petite Lou, hein, le nom de notre petite jeune fille qui est leucémique malheureusement, en phase de rémission. Je lui souhaite un bon rétablissement et je sais qu'elle est en bonne voie de guérison, mes pensées vont vers elle, il faut qu'elle s'accroche. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Je vous retrouve pour les deux dernières émissions prochainement en présence de Régis Boinet et Michael Paoli. Et puis nous tenterons de vous faire quelques surprises pour terminer sur une note positive. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant ces 2 ans. Merci Marie.
Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cette émission que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de faire en ta compagnie.
Eh bien, merci Marie.
Et merci Laurent.
Et merci pour votre bonne humeur et votre joie. Bonne continuation à tous. À bientôt Marie dans la vie de tous les jours.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.